titre de ce message, c'est « Le péché à la lumière de la parabole du semeur et des terrains ». Ça va, vous en souvenez? Voilà, donc on va repartir là-dessus. Je prie le Seigneur qu'il ouvre vos cœurs, parce qu'on n'a pas souvent l'habitude d'approcher de cette façon-là. Alors, très humblement, il me semble que j'ai reçu quelques lumières là-dessus, sur cet enseignement. Ça m'a moi-même permis d'avancer, et ça me questionne beaucoup à titre personnel déjà, donc j'essaie de mettre en application pour moi. Donc, je partage quelque chose, mais après, libre à vous, sur un problème de liberté, libre à vous d'accepter, de recevoir ou pas. Après, on est libre, hein, devant Dieu. Et puis chacun peut trouver aussi un enseignement complémentaire. Donc, je n'ai pas la prétention de dire que c'est l'enseignement, mais c'est un enseignement, c'est une approche avec un angle donné sur la parabole des semeurs. Alors, je vais relire la parabole des semeurs, et après, on va démarrer. Je relis pour situer le contexte. Alors, c'est dans Matthieu 13, 1, 58. Un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres semences tombèrent sur un sol rocailleux. Dans d'autres versions, on dit un sol où il y avait peu de terre, pas beaucoup de terre. Donc un sol rocailleux. Et ne trouvant qu'une mince couche de terre, voilà, ils levèrent rapidement, c'est-à-dire ils germèrent, parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent brûlés. Et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Donc c'est le troisième cas. Les ronces, tout le monde sait ce que c'est que les ronces. Ce sont des épineux. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains, enfin, tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Celle qui a des oreilles, qu'elle entende. Voilà. Donc ça, c'est le rappel. C'est assez intéressant, hein, comme parabole. À chaque fois que je la lis, ben, je me régale. Ça me fait du bien. Alors, on en était resté précédemment sur le fait que lorsqu'on est tenté, il y a un verset dans la Bible qui dit que lorsqu'on est tenté, vous savez, on est d'abord attisé par sa propre convoitise. Puis après, on est séduit. Et puis après, il y a l'enfantement du péché, il y a la conception du péché, puis l'enfantement du péché, et puis après, il y a la transgression. Vous vous rappelez de ça? Et du coup, logiquement, je me suis dit, ben, finalement, s'il y a plusieurs étapes avant que l'on ne transgresse, avant que l'on ne pêche, ben, ça veut dire aussi qu'à chaque étape, finalement, on peut réfléchir librement, on a un libre arbitre, et on peut se dire, ben, tiens, là, je m'arrête, puis là, je m'arrête. Puis l'autre jour, je discutais, c'est toujours intéressant de discuter avec les frères et les sœurs après une prédication, et quelqu'un me disait, mais David, tu regardes et tu convoites la femme de ton prochain, ou tu convoites une femme ou un homme, hein, peu importe, tu as déjà péché. Donc, c'est vrai qu'il y a des étapes, tu peux t'arrêter à chaque étape quand la convoitise vient, quand la séduction vient, quand la conception du péché vient, tu peux t'arrêter, oui, mais la Bible dit aussi par ailleurs que dès que tu penses à l'adultère, dès que ça traverse, mais tu as déjà péché. Jésus le dit, oui. Je suis d'accord. Et si vous voulez, on peut faire des longues prédications sur le péché. C'est très compliqué, en fait. Oui, mais moi, je préfère m'arrêter avant. Même si c'est vrai qu'on a péché quand on a déjà la pensée qui nous traverse, ouais, mais je préfère m'arrêter avant d'aller au bout. C'est quand même plus pratique, parce que les conséquences peuvent être graves pour une famille. Donc ça, c'est vrai, il y a des choses comme ça, mais il faut faire attention. On vit sur Terre et il y a des conséquences. Donc, je referme la parenthèse pour dire que je n'ai pas la prétention d'explorer tous les cas de figure. C'est bien entendu, on peut toujours dire oui. Mais là, je centre sur la parabole du semeur et des terrains pour en tirer un enseignement plutôt simple. Alors oui, il est possible quand le péché, la tentation arrive vers nous, je dirais, de l'extérieur, d'accord ? Il est toujours possible, quand elle vient de l'extérieur, on est soumis brutalement à quelque chose qui nous surprend, on peut faiblir. Et là, on peut sortir certaines armes et dire finalement, je suis armé, j'ai une expérience, le Seigneur est avec moi, j'ai reçu un enseignement, et l'Église était avec, l'Église me soutient, me porte, j'ai les moyens de me défendre contre le péché. Oui, mais alors, j'en étais resté là. Comment est-ce donc possible que beaucoup d'entre nous, je dirais certains d'entre nous, après avoir cru, après avoir été baptisé, après avoir été fidèle même de longues années, après avoir avancé avec le Seigneur, pourquoi certains d'entre nous disent quand même, dans leur marche chrétienne, avoir vécu des difficultés, vécu des échecs douloureux et répétés? Oui, donc on peut se dire, mais après tout, si c'est si facile de lutter contre le péché, c'est bon, tout va bien. Oui, mais la réalité nous montre que ben, moi, vous, les chrétiens, n'y arrivent pas toujours facilement. Mais alors, pourquoi? Pourquoi si c'est si facile? C'est ça la question. Donc, il me semblait que la clé de cette, une des réponses clés à cette question, il me semblait que cette clé se trouvait dans la parabole du semeur et des talents. Et le terrain pierreux ou le terrain épineux pourrait, ou le terrain qui se trouve au bord du chemin pourrait servir de représentation du cœur de l'homme en général pour expliquer comment ça se passe, comment est-ce que nous on peut réagir par rapport à la tentation et face au péché. La première partie de ce message, c'est « Beaucoup d'hommes et de femmes ne connaissent pas suffisamment leur terrain. » Retenez ça. On part de là. Ça va ? Vous ne connaissez pas suffisamment votre terrain. Ça, c'est un problème. En tant que disciple de Christ, je parle à ceux qui sont engagés, à ceux qui ont cru, qui se sont fait baptiser, qui marchent. On pourrait aussi se reconnaître dans ces hommes et ces femmes dont les cœurs ont été associés au terrain pierreux ou au terrain envahi de ronces. Quand on lit les versets, dans les deux cas, rien ne laisse soupçonner au départ que les choses vont mal se passer ensuite. Parce qu'on dit « la parole est semée ». En plus, on dit « la bonne parole ». C'est génial. La parole a une puissance, n'est-ce pas ? On dit, mais la parole, elle va vaincre. La parole est celle qui va avoir raison des choses. On ne soupçonne pas la suite. Les personnes qui ont reçu la bonne semence et qui l'ont acceptée ne sont pas tout à fait conscients du danger, des désordres cachés qui les menacent. C'est les cœurs, c'est leur terrain. Ils ignorent peut-être, ou peut-être qu'ils minimisent, n'est-ce pas, au départ, leurs difficultés, leurs fragilités, leurs addictions, leurs faiblesses, leurs passions, leurs folies. C'est ça le problème. On minimise, on ne soupçonne pas, on ne sait pas vraiment, mais on reçoit. Vous voyez, partant de l'hypothèse suivant laquelle on ne connaît pas bien son cœur, on ne connaît pas bien son terrain, on peut aussi en conclure que on n'est pas forcément vraiment préparé. Préparé à quoi ? À lutter contre le péché. Hein. Si tu ne connais pas ton terrain, quand une chose t'arrive, que tu ne sais pas qui tu es vraiment, comment tu fais pour affronter la difficulté ? C'est assez logique, hein, excusez-moi. Donc, prépare à affronter les convoitises, les tentations, les séductions, les transgressions, etc. Donc, tout ça, c'est lié au terrain. À ces tentations, à ces convoitises liées à votre terrain. Pas au terrain du voisin. Donc, comment conserver la parole, comment la mettre en application lorsque les désordres vont s'accentuer, les désordres du terrain, et que les désordres vont se multiplier. Parce qu'un terrain, ça évolue, hein. Vous savez, le terrain n'est jamais, c'est pas un état statique, un état stable. Un terrain, ça évolue, hein. Il n'y a qu'à voir dans la nature, hein. Alors, comment qualifier le terrain ? Alors, ça ne vient pas de la Bible, c'est moi qui emploie ces formulations, je les propose, ben, on pourrait appeler cela un état propice au péché. C'est un état propice. Ou encore un état de péché latent. Il est latent, vous n'avez pas encore péché, mais il y a en germe quelque chose. Oui. Ou encore un état de péché partiellement conscient. Je complique encore, ou partiellement inconscient. Ouais, c'est l'état de péché, c'est une sorte de brouillard, de nébuleuse, un côté un peu sombre, où on ne sait pas vraiment. Mais quand on ne sait pas, quand on ne voit pas, ben, ça pose des soucis. L'état de péché, je ne parle pas du péché, je fais le mal, c'est un état, c'est un état latent, ouais, c'est celui qui me plaît le plus, l'expression qui me plaît le plus. Attention, donc voilà, il me semble donc très important pour démarrer cette étude, eh bien, qu'on ait conscience que Jésus voulait nous dire que nous connaissions notre terrain. Jésus, il n'était pas idiot, hein, désolé, ce n'était pas juste un enseigne. Il était très pratique, hein, enfin, excusez-moi, l'expression n'est pas heureuse de dire ça, mais je le dis, il était concret, quoi, Jésus, il était concret. Il est important de connaître son terrain. Sinon, regardez les conséquences. Alors, passons à la deuxième partie. Connaître son terrain, mais quel terrain? Alors, vous allez dire, monsieur Bruce, je sais, David, je connais ce que tu viens de le dire. Il y a les terrains pires, etc. Ouais, mais allons un peu plus loin. Même s'il existe, d'après Jésus, quatre profils types, je dirais des archétypes, en termes de terrain, les archétypes. Il les a cités, Jésus, d'accord, qui sont symbolisés par les terrains. La réalité est souvent plus complexe que ça. Jésus, il modélise les choses. Il ne pouvait pas passer des heures et des heures et des heures à passer à travailler sur la parabole. C'est à nous de comprendre. Donc, un terrain, dans les faits, n'est pas toujours absolument pierreux, ni absolument épineux, ni absolument constitué de bonnes terres, ni absolument un terrain parfaitement accessible au diable. Vous voyez, ce terrain qui est en bordure de route, il y a une partie qui n'est pas accessible à la route. Donc il est protégé quelque part des voleurs et des bandits. Autrement dit, ce qui prévaut en ce qui concerne le cœur humain, c'est l'hétérogénéité. S'il n'y a pas d'homogénéité en réalité, c'est pas aussi caricatural que ça. Il y a un côté d'hétérogénéité du terrain. Un terrain peut donc à la fois contenir des buissons de ronces et des pierres, et en plus de cela se trouver en bordure d'un chemin, là où Satan pourra voler facilement. On peut avoir les trois problèmes, parfois les deux, parfois qu'un. Ouais, mais peu importe, on a des problèmes quand même. Hein. Et puis, il peut aussi y avoir des parcelles de bonne terre. Il y a du roc, il y a des mauvaises herbes, mais il peut y avoir des zones où il y a quelque chose. Et la semence va peut-être tomber dessus. Il y a un espoir. Il y a un espoir quand même. Tout n'est pas aussi, je dirais, arrêté que ça. Vous voyez. Donc, il me semble, c'est ma lecture, pardonnez-moi, peut-être que je me trompe, je ne sais pas. J'essaie de me dire que ça a une logique. Me semble. Parfois il y a, je vais vous faire rire, parfois il y a beaucoup de bonnes terres. Oui, mais il y a un gros rocher au milieu. Il y a beaucoup de bonnes terres, mais au centre, il y a un énorme rocher. Ouais. Donc, on pourrait, pour aller plus loin, imaginer aussi qu'en réalité, le cœur humain, le cœur de l'homme, le cœur qui reçoit la bonne semence, est un terrain qui comprend des zones de bonne terre cultivée, qui donne des fruits. Bonne terre cultivée, oui. Bonne terre cultivée. On peut avoir de la bonne terre non cultivée. Bonne terre cultivée qui donne des fruits. À côté de cela, toujours sur le même terrain, des zones de bonne terre cultivables, mais non cultivées. Elles ne sont pas cultivées. Et là, je pense à la parabole des talents. Tu as reçu mais qu'as-tu fait ? Tu as reçu, mais qu'as-tu fait de ton talent ? Et bien entendu, des zones non cultivables. En tout cas, dans l'immédiat. Elles ne sont pas cultivables parce que trop épineuses, il y a trop de pierres, elles ne sont pas cultivables, c'est pas possible d'y arriver là. Puis, depuis quand tu y passes, tu te blesses. Hein, donc, oui. Il faut prendre un tractopelle parfois pour débroussailler. Il faut prendre un peu de temps. Donc, vous voyez que. Avoir une approche, je dirais, monolithique des terrains, Jésus nous a donné les archétypes, mais c'est à nous après, je pense, de comprendre que ce n'est pas simple. Puis, vous savez, ça n'a pas été compliqué pour moi. Il a suffi que je regarde mon cœur. Je dis à David, allez, hop, 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 allez, qu'est-ce qu'il y a en fait dans ta vie ? Tac, 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 ben, j'ai vu hein, qu'il y a plusieurs zones. Donc, forcément, je me dis, bon, ça doit être ça pour les autres. Vous l'avez compris, l'état de votre terrain est l'expression de votre identité profonde à un moment donné de votre vie. C'est le résultat de votre parcours de vie. Vous avez un parcours, d'accord ? De votre naissance à aujourd'hui, d'accord ? C'est le résultat d'une construction dont vous avez été l'acteur principal, l'actrice principale. C'est une construction. Donc, construction à partir de quoi ? À partir d'expériences et de situations choisi ou de situation subie, de situation choisie bénéfique ou pas, de situation subie, bénéfique ou pas. Ça, le terrain, c'est un résultat. Quand on regarde un bilan comptable, c'est une photographie à l'instant T de l'entreprise. Ça, le bilan, le compte de résultat, lui, c'est le cumul. Donc c'est ça, le terrain, on regarde, hop, on regarde ce qui se passe à l'instant T. Il y a un actif et il y a un passif dans un bilan. C'est pareil ici. Il y a des ronces et puis il y a de la bonne terre. Donc nous venons de voir, pour récapituler, qu'il est nécessaire de connaître son terrain et l'état de son terrain. Premier point. Deuxième point. Il y a quatre archétypes de terrain. Et quand on regarde bien, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Le terrain est souvent complexe. Et ça, c'est l'état du cœur qui est très complexe. Le Seigneur Jésus voulait nous enseigner, il me semble, là-dessus. Nous passons au troisième point. Alors, à ce stade de cette étude, je me suis dit, après tout ce que j'aurais dit, il va émerger dans l'esprit de la plupart de mes frères et de mes sœurs ici présents cette question. Mais alors, si mon terrain, au moment où j'ai reçu la bonne nouvelle de l'Évangile, il est soit pierreux, soit épineux, soit situé en bordure de chemin où il y a des voleurs, des gens qui volent, la bonne parole, ou encore il est les deux à la fois, les trois à la fois, qui puis-je vraiment après tout ? Qu'est-ce que j'y peux, moi, que mon terrain il soit pierreux ? Qu'il soit épineux ou tout à la fois, c'est quel fardeau, hein ? Qu'est-ce que j'y peux ? N'est-ce pas vraiment injuste, finalement, d'entendre ça ? De dire que, selon le terrain qu'on a, pas de chance, hein ? Ça va griller au soleil. Pas de chance. Il y a des oiseaux, des voleurs qui vont te prendre la parole. Non, c'est inquiétant, quand même, comme verdict. C'est pas vraiment encourageant, on va dire. C'est injuste. Et puis en plus, c'est encore plus injuste parce qu'on est tous différents ici, on n'a pas le même parcours. Il y en a qui ont vécu des choses plus difficiles que d'autres. Du coup, leur terrain, bonjour. Hein. C'est encore plus injuste. On est inégaux. On est inégaux face à la santé, on est inégaux face à la beauté, on est inégaux face à la force, on est inégaux face à l'intelligence, mais on est inégaux face au terrain. Il y a des inégalités sur terre. Hein. Comment pourrais-je donc tenir dans les voies de Dieu dans ces conditions ? Comment pourrais-je résister au péché et porter du fruit ? Et quel avenir puis-je espérer si dès le départ, mon terrain n'est pas en ma faveur ? Oui. Et d'ailleurs, je proteste, hein, voilà, je l'ai mis en parenthèse, je pourrais protester. Comment se fait-il que mon destin spirituel soit à ce point, je dis bien à ce point, lié à l'état de mon terrain ? C'est quand même injuste. Alors Jean-Didier, à l'instant, nous a rappelé D'ailleurs, attention, il n'y a pas de contradiction. Il nous a rappelé que Jésus n'était pas mort pour rien. Ce n'est pas contradictoire. Ce n'est pas contradictoire. Jésus n'est pas mort pour rien. Donc on va resituer par rapport à la bonne nouvelle de l'évangile. Mais il y a aussi des réalités. Il y a des réalités. Désolé. La Bible ne dit-elle pas, n'ai-je pas lu dans la Bible, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ben alors, c'est quoi cette histoire de terrain-là? Pourquoi on vient m'embêter ce matin avec ça? Pourquoi ce David-là, il vient nous embêter? Je ne comprends pas. Hein. Celui qui sera cru, qui se sera fait baptisé, mais il sera sauvé. Donc, hop, fini. Ciao. Peut-être. Si c'est comme ça que vous voulez le prendre, pourquoi pas? Mais l'expérience, en tout cas la mienne, me dit que ce n'est pas aussi simple. Alors, tout ça pour dire que je tenais à vous rassurer. Beaucoup, lorsqu'ils lisent cette parabole, ils disent « Oh là là, pff, Jésus, là, il a encore été fort. Hein. Et puis, il a été dur. Et puis, pff, quel fardeau. » Et puis, non, ben, je regrette, cette parabole du semeur et des terrains n'est pas une condamnation. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ça paraît être une condamnation. C'est mon troisième point. Ce n'est pas une condamnation, loin de là. On peut le prendre comme ça en disant, j'en ai les bras coupés, comment je vais faire mon terrain? Puis, vous vous rendez compte, pour améliorer un terrain, il faut du temps. Mais à l'instant T, je vis mal dans ma vie. Eh bien, justement. Cette parabole du semeur et des terrains n'est certainement pas une condamnation, ni une déclaration selon laquelle les destins spirituels des uns les autres seraient tout tracés, tout arrêtés à l'avance. D'ailleurs, on le sait bien, est-ce que la plupart d'entre nous, certains d'entre nous, si aujourd'hui nous sommes à l'église et si nous avançons, c'est bien que nous avions un terrain chaotique avant, plus ou moins chaotique, en tout cas, qui justifiait qu'à un moment donné, on se repente, qu'on dise, ben, j'étais dans l'obscurité, j'ai besoin de la lumière, de l'évangile, sinon on ne serait pas là, on serait encore en train de sautiller à gauche et à droite. Mais donc, si nous sommes là, c'est que nous avons été encouragés par cette bonne nouvelle. Et c'est que il n'y a pas de contradiction entre avoir un terrain accidenté et le salut. Il n'y a pas de contradiction. C'est juste un avertissement. C'est juste une mise en garde. Jésus est bon. Jésus est prévoyant. Il vous dit, mais si tu ménages ta monture, sache qui tu es, sache où tu en es, ouvre bien les yeux. Et marche en connaissance de cause. Si tu marches comme ça, sans mettre tes lunettes, alors que tu sais que tu en as besoin, mais tu tombes. Équipe-toi, prépare-toi, sois avisé et marche. Mais si tu ne te prépares pas, si tu n'affûtes pas tes armes, excusez-moi, les armes de la foi, si tu sais que tu n'iras nulle part, quoi. C'est tout. C'est une recommandation de la part du Seigneur, ça, cette parabole. Ce n'est pas une condamnation, pas du tout. Mais moi, je l'ai pris comme une condamnation il y a plusieurs années. Puis d'ailleurs, je ne la lisais plus parce que je me disais, punaise. Et donc les terrains, quoi. La messe est dite. La messe est dite. Tout est dit. Bon, bah, si c'est comme ça, bah, tant pis pour moi. C'est décourageant. Hein. Je n'ai rien contre la messe. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire de cette mise en garde? Et j'en viens à mon quatrième point. J'aimerais que quelqu'un me donne une réponse. Nous avons vu qu'il est important de connaître l'état de son terrain. Nous avons vu que tous les terrains ne se ressemblaient pas et que le terrain était une surface complexe. Le cœur humain est complexe, c'est à géométrie variable. Nous avons vu également que la parabole du semeur n'était pas une condamnation, c'était une mise en garde. Trois points. Ben alors, lorsqu'on vous met en garde, vous faites quoi? Qu'est-ce qu'on fait? on te dit ton terrain est accidenté. Il y a des ronces, il y a des épines, il y a des pierres, il y a un peu de terre, un peu de bonne terre, et puis une zone où il y a peut-être beaucoup de bonne terre, mais en attendant, dans l'ensemble, il y a du travail. Je l'ai dit. Raté. Je n'ai pas été pédagogue. J'ai été mauvais là. Mais que faut-il faire? Il faut travailler son terrain. Travailler son terrain. Ben oui, entre autres. Comment travailler le terrain? Ben en labourant avec quoi? Ben avec la parole de Dieu. Il y a un travail, hein. Il y a un travail. Alors, on va voir ce travail. Attention. Ça défile là. Alors, la bonne semence est en effet la parole de Dieu. Cette parole de Dieu est créatrice de vie. La semence, c'est la vie. C'est créateur de vie, hein, la bonne semence. Donc, ça crée la vie, mais on voit bien qu'il faut soit préparer le terrain à ensemencer pour que la semence s'y implante bien et porte du fruit. Et certaines personnes, quand elles reçoivent cette bonne semence, ben, tant mieux pour elles. Le terrain a déjà été préparé. C'est comme ça, c'est injuste, c'est comme ça. Le parcours de la personne fait que elle est prête. Mais c'est pas miraculeux. Hein. Elle n'est pas prête miraculeusement. Elle a probablement cherché. Elle a probablement souffert. Celui qui cherche, trouve. Celui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. Celui qui frappe, on lui ouvre. Il y a des gens qui ont eu une démarche. Alors, ils sont peut-être perdus, mais ils ont déjà eu une démarche. Et quand ils reçoivent, le fruit est mûr. Donc, ils reçoivent et il y a de la bonne terre et ça pousse. Mais il y a un parcours. Donc, tant mieux pour ces personnes-là. Mais parfois, le terrain n'est pas prêt. Et pourtant, il reçoit quand même la bonne semence. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il est urgent de travailler le terrain, de s'y mettre. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre que la semence grille. Une partie de la semence va griller, mais il y a peut-être un peu de terre. Et donc là, il y a des artisans, à commencer par le Saint-Esprit, et à commencer par l'acteur que vous êtes vous-même, puis à l'Église. Et on va porter la personne, on va l'aider, on va l'encourager, on va l'aider sur son terrain. On ne va pas la laisser seule. On va y aller à 15, 20, on va arracher les mauvaises herbes. Bref, il y a un soutien. Et donc, c'est comme ça qu'il y a des personnes qui sont relevées. Elles arrivent, elles ont le cœur en miettes, quoi. L'Église les porte, l'Église les soutient, et à un moment donné, on arrive à dégager une parcelle qui est à peu près, voilà, oui, et on plante, et on replante, et on ressème, et ça commence à pousser. Donc vous voyez qu'il y a un travail à faire, il faut assainir la terre, il faut faire quelque chose, et il faut continuer à semer la bonne parole, tout en ôtant au fur et à mesure ben, les épines et les pierres. Alors chacun a son épine, hein. C'est quoi votre épine? C'est vous en voulez à quelqu'un? Vous n'avez pas pardonné à quelqu'un? Vous êtes en colère? Voilà, à chacun de voir. Il y a un deuil que vous n'avez pas avalé, que vous n'avez pas accepté. Vous êtes perpétuellement en deuil, vous en voulez à Dieu, vous en voulez à la personne qui est partie. Enfin, vous avez perdu un enfant. Enfin, il y a des épines, il y a des pierres sur nos terrains. Il y a des choses, on a du mal. Il faut identifier. Il faut identifier, il faut présenter à Dieu. Jean-Didier disait ce matin, mais prendre la Sainte Seine, mais en connaissance de cause, c'est-à-dire en étant dans la lumière, en disant « Seigneur, je sais où j'en suis, je ne me voile pas la face, je sais, Seigneur, je continue, je fais un acte de foi, j'avance, je mets un pied devant l'autre, puis un deuxième, j'avance, je veux que le terrain soit assaini, je le veux, c'est une démarche, c'est pas un résultat, il n'y a pas de résultat. C'est une démarche. La démarche de la foi. Dieu ne vous demande pas qu'il y ait des arbres, qu'il y ait... Oui, d'accord, il le veut, bien sûr, in fine, il le veut. Mais en attendant, il y a une démarche. Allez, donc c'est tout. Il n'y a donc pas de fatalité, j'insiste là-dessus, en ce qui concerne le devenir des terrains. Surtout, comme je l'ai dit, s'il y a déjà un petit bout de bonne terre, et puis parfois il n'y en a pas, et on la rend, on en fait une réalité. C'est possible, le miracle de Dieu est possible. Parfois il y a des plantes qui poussent dans les rochers, on le voit dans la nature, donc c'est possible. Donc, certaines conditions sont simplement nécessaires pour que la vie émerge d'un terrain. Ça relève de la logique. Pour qu'il y ait de la vie, pour qu'il y ait de la vie en abondance, il y a des conditions. Il faut des conditions. Les agriculteurs ici, et j'en connais un qui est à ma droite, il le sait. Le terrain est un espace qui peut être gardé des voleurs. C'est possible. Il peut être amélioré dans le temps avec suffisamment de travail, de patience, d'investissement et d'engagement spirituel personnel. L'acteur principal, c'est vous, à l'aide du Saint-Esprit. Mais vous voyez qu'il y a de l'espoir. Chez le disciple, le terrain, alors j'ajoute encore une petite, ça ne vient pas de moi par contre, je l'ai entendu dire. Chez le disciple de Jésus, j'ai entendu dire que le terrain comportait des zones qui sont conquises. Le cœur est conquis à Dieu, vous avez cru, vous êtes fait baptiser, vous marchez. Donc on va dire que la terre est conquise. Oui, mais est-ce qu'elle est soumise ? Conquise, soumise, conquise, mais pas forcément soumise. Donc, quelles sont les zones de ton cœur ? Quelles sont les zones de ton terrain qui sont, oui, conquises ? Le Seigneur a planté son drapeau. Tu l'as accepté, il siège là. Ouais, mais est-ce que tu as tout soumis ? Ou est-ce que tu gardes pour toi des prérogatives, des privilèges, en te disant « Ah ben ça c'est à moi, et puis ça c'est à moi, ça c'est à moi, et puis ça j'en parle pas à Dieu, et puis ça de toute façon ça me fait trop mal, je peux pas en parler. Je peux pas en parler à Dieu, ça me fait trop mal. Je peux pas en parler à Dieu. C'est pas possible, pas encore. C'est ça le problème. Donc tant que tu ne montres pas à Dieu, tant que tu te découvres pas à Dieu, tu te mets pas nu finalement devant Dieu, la nudité, eh ben non, Dieu peut pas te soigner. Vous voyez, c'est vraiment compliqué ces choses-là. Donc, le terrain porte du fruit lorsqu'il est à la fois conquis et soumis à la parole de Dieu. L'objectif, c'est de soumettre toutes les parcelles du terrain. Pas juste une seule, en se disant, je me drogue plus. Hein. Je bois plus, c'est bien. Je fume plus. Ouais, mais c'est pas ça. Hein. C'est ça n'a rien à voir. Tu peux pas te droguer, pas fumer, plus tromper ta femme, ton mari, plus faire des choses qui paraissent très grossières comme ça, et avoir un cœur mais de pierre, avoir un cœur totalement envahi, parce que tu donnes bonne façade. Tu te drogues plus, tu bois plus, tu insultes plus. Ah oui, super, c'est bien, c'est un progrès. Je ne dis pas que c'est pas un progrès. C'est super, puisqu'avant tu le faisais. Oui, mais est-ce que ton cœur, est-ce que vraiment il n'y a pas des buissons des... Ça, c'est tout le problème. On peut se tromper soi-même et donner le change à l'église. Hein. Oui, je suis un homme super bien, oui, je suis bien ce matin. On peut donner le change tout le temps. Et puis se convaincre finalement qu'on a progressé, que le terrain il est assaini. On peut se convaincre. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de se mentir ? C'est ce que disait Jean Didier. S'examiner soi-même, c'est ne pas se mentir à soi-même. C'est d'être réaliste. Pas mentir à Dieu. Oui, effectivement, se mentir à soi-même et donc mentir à Dieu. Donc, j'ajoute que ce travail, où on est vigilant par rapport à son terrain, s'y dure toute la vie. Personne n'est arrivé. Parce que, j'ai dit, le terrain évolue. Le terrain bouge. Il y a des crevasses, la pluie tombe, il y a des voleurs qui repassent. On dit que la parole est semée une fois, et depuis deux fois, et puis trois fois, mais les voleurs, ils passent plusieurs fois aussi. Hein. Et puis, il y a des cailloux, les gens te balancent des cailloux sur ton terrain. Hein. Ah oui, hein. Puis elle est ronce, elle pousse. Hein. Et puis, je fais une petite parenthèse, tu n'es pas seul à habiter ton terrain. En général, il y a ta femme qui partage le terrain avec toi, hein, parce que souvent on ne le dit pas ça. On peut aller plus loin. Hein. Le terrain, ça se partage, il y a une famille installée sur le terrain. Oui, il y a des oncles, des tantes, des neveux, des nièces, des amis. Quand ils passent sur le terrain, ils balancent des détritus, hein, les gens. Donc votre terrain, vous croyez qu'il vous appartient ? Absolument. Il est partagé avec d'autres personnes. Qu'est-ce qu'ils en font quand ils passent sur le terrain de votre terrain? Donc le coût du terrain, la parabole du terrain, si on regarde bien, c'est compliqué, hein. Il faut bien reconnaître que nous ne sommes pas égaux face à l'état de nos terrains, et donc tous les chrétiens n'affrontent pas les mêmes difficultés, il faut être honnête. Ça aussi, ça demande de l'humilité, ça demande de la patience, du courage. Tout le monde, en fonction de l'état de son terrain à la base, initialement, ne va pas affronter les mêmes douleurs, les mêmes difficultés, n'aura pas le même cheminement. Certains porteront plus rapidement du fruit que d'autres, ben oui. Et plus de fruits que d'autres, peut-être toute leur vie, ben oui, ben, tant mieux, c'est bien, moi je m'en réjouis. Que vous puissiez porter plus de fruits que moi, d'accord, je suis d'accord. Au moins je pourrais en prendre deux, trois de temps en temps et me dire, ben, je suis aidé. Et alors, chacun fait avec ce qu'il peut, mais l'essentiel c'est d'avancer. Il faut se réjouir du bien des autres, tant mieux. Hein. Et donc, il y a des terrains qui seront plus difficilement et plus lentement soignables, curables. Ça sera plus difficile pour certains. Et pour autant, Dieu les aime autant. Dieu les soutient autant. Mais ils ont plus de difficultés. Il y a des gens qui ont plus de difficultés à marcher avec le Seigneur. En tout cas, initialement, c'est plus dur. Initialement, c'est plus dur. Et voilà pourquoi beaucoup décrochent. Parce que c'est beaucoup plus dur au départ. Il y a un combat, c'est très dur. Donc oui, il y a une réalité derrière ça. Et puis dernière chose, ben, un terrain, c'est pas comme une brosse à dents, quoi. Quand elle est vieille, on ne la change pas, on peut la changer, mais un terrain, on se le garde. Votre terrain, c'est votre terrain. Il a été marqué de votre histoire. Le Seigneur peut amender la terre. Hein. Le Seigneur peut, avec votre aide, améliorer le terrain. On peut enlever quelques rochers, on peut enlever, mais il en restera toujours un peu. Ce n'est pas si simple. Il faut une vie. Voilà pourquoi il faut la grâce de Dieu, et ça rejoint la présentation de la scène. Si on est sauvé par grâce, personne n'arrivera à dire « Ah ben, moi là, mon terrain, nickel hein. !» Non, non, c'est pas ça. Mais le Seigneur le dit pour vous. Si vous soignez votre terrain, c'est pour vous, c'est pour porter du fruit, c'est pour être à sa gloire. Ce n'est pas une condition du salut, bien sûr, on est sauvé par grâce. Mais faites attention, si on laisse le terrain nous envahir, on peut le perdre, le salut. C'est juste ça, il y a une réalité aussi. Si on laisse le terrain nous écraser avec ses calamités, ben, on peut perdre le salut aussi, parce que ça nous écrase. Ça nous pourrit la vie. Donc il y a une mise en garde, il y a aussi un encouragement. D'accord ? Et le travail est nécessaire. C'est la marche du disciple. Le Seigneur faisait des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend. C'est quelqu'un qui marche. Qui est dans la discipline. Disciple, discipline. C'est tout. C'est tout. Je ne pense pas être... j'ai pas inventé le fil à couper le beurre, il me semble. Ça semble très, très basique hein, comme approche. Donc pour certains, il y aura une rééducation qui peut être douloureuse, mais il faut s'accrocher jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre se fasse, parce qu'il y a eu des désordres. Alors tant mieux pour ceux qui n'ont pas eu beaucoup de désordres. Alors nous arrivons à la conclusion, 5 minutes de conclusion. Alors je vais aller assez vite. Récapitulons. Premièrement, il est important, comme on l'a dit, de chercher à connaître et reconnaître l'état de son terrain. C'est pas pareil. Connaître et reconnaître. On connaît et on reconnaît. Il faut dire, ok, d'accord, j'accepte. J'accepte l'état initial. D'accord ? Ok, donc ça demande de l'honnêteté, etc. Alors certains me diront, ah ouais, mais c'est compliqué de reconnaître mon terrain, moi j'y arrive pas. Mais je vais vous donner un bon conseil. Déjà, à force de tomber, de se blesser dans les ronces, tu devrais réfléchir. Et puis, à force de te cogner contre les pierres, tu devrais avoir mal et te dire, ah ben là, quand même, en général, ça revient souvent. Donc, en général, on reconnaît. Et puis, un autre conseil, si vous voulez vraiment savoir quel est l'état de votre terrain, demandez à votre mari. Demandez à votre femme. Demandez à vos enfants. Demandez à vos frères. Demandez à vos sœurs. Demandez à vos oncles. Demandez à vos amis. Et bien, ils vous diront. Ils vous diront, voilà, en gros, David, toi, là, c'est ça ton problème. Bon, tu as peut-être deux, trois problèmes majeurs. C'est ça. Ils vont vous le dire. Hein. La consultation sera gratuite. Et ça, c'est bien ça. Mais elle sera efficace. Elle sera ciblée. Demandez. Faites-le. Allez demander à votre femme, votre mari déjà, croyez-moi. Moi-même, je sais. J'ai eu mon diagnostic. Ça, c'est le premier point. Chercher à connaître, bon, il y a une démarche, on cherche à connaître et donc à reconnaître. Ensuite, travailler le terrain. Maintenant que tu sais, travaille. Mets-toi au travail. Tu travailles, d'accord? Et ça va aller. Ensuite, on ne peut pas travailler seul, donc je recommande de se faire aider. Se faire aider par quelqu'un qui soit une bonne confidente, un bon confident dans l'Église. Quelqu'un qui fait partie de la maison de Dieu, qui vous aide. Ça peut être le pasteur, mais pas que. Ça peut être un bon frère, une bonne sœur, qui est stable, qui est assez équilibré, qui peut vous encourager. Pas forcément faire le travail à votre place, ce n'est pas le but, mais qui va vous encourager. On a besoin d'aide, c'est très important. Et puis s'il faut, rien n'empêche d'aller aussi consulter un professionnel. Parce que parfois, il y a certains traumatismes qui demandent à ce qu'on s'exprime autrement encore. Ce n'est pas interdit d'aller voir un psychothérapeute. Il n'y a pas de tabou là-dessus. Ouais, le problème. Voilà. Chacun va apporter une aide particulière qui sera complémentaire des autres. Donc, chercher à connaître et à reconnaître son terrain, se mettre au travail, donc, voilà, et se faire aider. Alors, avant de se mettre au travail, j'ai oublié, je n'ai pas mis dans l'ordre, pardonnez-moi. Quand vous avez connu et reconnu, il faut se fixer un ou deux objectifs. Franchement, pas plus. Ne faites pas une liste de problèmes comme ça là, à poursuivre. Ça ne sert à rien. Sur votre terrain, il y a en général un gros rocher. Il y a un truc, ou deux. À partir de là, découlent tous les autres problèmes. Il y a une ramification, hein, vous savez, c'est comme les cellules nerveuses, elles sont étoilées, elles se ramifient. Vous localisez le rocher, le buisson qui est puissant, la racine principale, si vous arrivez à la saboter, avec l'aide de Dieu, si vous arrivez à travailler là-dessus, il y a tout qui va mourir autour. Parce que c'est le pivot. C'est le pivot. Ça ne sert à rien de vous éparpiller, aller courir après. Non. Un objectif. Deux objectifs maximum. Et je recommande un seul. Et vous visez bien. Et vous travaillez sur cet objectif-là. Vous allez voir. Donc, se donner un objectif. Quel est mon objectif majeur? Quel est mon objectif prioritaire? Vous devez lui donner un nom. Vous l'écrivez. Vous dites, Seigneur, maintenant, voilà. Ça, j'ai donné un nom à mon terrain, à ce qu'il y a sur mon terrain. C'est mon objectif avec toi et avec l'Église, avec la maison, avec la famille de Dieu. C'est mon objectif. Et vous travaillez sur l'objectif. Sans objectif, vous allez vous disperser. Vous n'y arriverez jamais. Donc, j'aimerais dire une chose. Ça, c'est pour terminer. J'ai terminé dans 2 minutes. Vous savez, quand j'ai fait cette étude, il m'est apparu clair que quand on a cette approche du terrain, c'est-à-dire que c'est une approche en perspective. Ce n'est pas une approche de l'immédiateté. On est dans la perspective. On regarde au loin, on se dit, j'ai du travail. Ben, il est inutile, dans cette logique-là, de se lamenter, de s'en vouloir, de se culpabiliser sans arrêt, de se flageller, vous voyez. Oui, ça ne sert à rien, ça. Ça ne sert à rien du tout de faire ça. Ce n'est même pas spirituel. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Ça peut vous faire du bien. Mais que ça ne devienne pas comme une sorte de fatalité. Vos pleurs ne doivent pas être des pleurs d'échec ou de désespoir. Si vous pleurez, pleurez parce qu'il y a besoin de vous libérer. Mais dites-vous qu'il est inutile de vouloir affronter un géant en une seule fois. Ce n'est pas possible. Donnez-vous le temps. Dites-vous que vous êtes engagé dans un combat, c'est une démarche. dans la foi avec le Seigneur, l'aide du Saint-Esprit, mais vous êtes dans une démarche. Et à partir de là, ben, on se dit, ben, y a du travail, c'est concret, d'accord ? Et du coup, on évite de se perdre en découragement. Ne vous découragez pas. Vous avez un énorme rocher. On met du temps. Aller sur la voirie pour faire sortir un rocher, parfois, il faut le dynamiter. Ça prend du temps. Il faut des grues, des pelleteuses, etc. Il faut du temps. Donc, il faut se donner le temps, tout en étant décidé, déterminé à vaincre. Parce que Jésus nous donne la capacité de le faire. Donc par la foi, on s'identifie à Jésus, on dit on va vaincre. Mais on a déjà vaincu par la foi. Maintenant, il faut l'appliquer. Mais inutile d'être triste, ne soyez pas triste. Si vous êtes triste, dites « Ok, je suis triste, mais je sais que j'ai la victoire. Je sais que je vais y arriver. » C'est un problème de travail. Donc, je voulais que cet enseignement, de ma part, là, soit un encouragement et non pas... Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait un encouragement là-dedans. Donc ayez conscience, pour terminer, que pour modifier un terrain, provoque des chamboulements, des réadaptations et forcément de la souffrance. Ça provoque de la souffrance. D'accord ? Il y a les douleurs de l'enfantement. C'est inévitable. Il va y avoir de la souffrance. Mais elle est nécessaire, elle est bonne cette souffrance, elle est salvatrice. Alors je ne suis pas en train de dire que la souffrance sauve, hein. Je ne suis pas doloriste, mais je suis en train juste de dire qu'il faut accepter pour que l'enfant naisse, la nouvelle créature naisse, elle est née par la foi, mais il faut qu'elle prenne forme, il faut qu'elle se développe, qu'elle ait une stature, ça demande un travail. Et dans cette démarche avec le Saint-Esprit, alors ça sera mon dernier mot, n'oubliez pas d'être compatissant envers vous-même. Aime ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Soyez compatissant, soyez patient. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être, le mot m'échappe, laxiste, narcissique ou être dans le compromis, ce n'est pas ça. On peut être ferme et déterminé en disant, ok, je sais que j'ai un truc comme ça. Ok, je suis conscient que c'est un problème qui m'a fait souffrir, qui a fait de moi, voilà, comme ci ou comme ça. Mais voilà, il faut être compatissant envers soi-même. Ayez une vue longue et large, généreuse envers vous-même déjà. Donc le Seigneur veut qu'on travaille comme ça. Et tout en étant déterminé, exigeant et sans compromis avec le péché. Vous voyez ? Donc, j'ai terminé cette étude-là.